Donc, nous avons parlé en début d'après-midi des bibliothèques sur dalles, de l'emprunt de livres dématérialisés, et pour finir, mais il n'y a pas de solution de continuité, on va parler de bibliothèques sans livres, ou en tout cas de bibliothèques avec moins de livres, parfois. Et c'est Laura Pagès qui prend la suite, donc elle est la conservatrice également du DCB24, comme Florie Bois, et qui va nous présenter donc le fruit de son travail dans le cadre de son mémoire.
Donc, bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous et je remercie les personnes qui m'ont invitée et qui ont organisé cette journée. Alors, mon intervention, elle s'inscrit en continuité avec celle que nous venons d'entendre. Va-t-on vers des bibliothèques sans livres imprimés ? La première bibliothèque municipale du monde à n'avoir aucun livre imprimé a ouvert ses portes aux États-Unis, dans le comté de Bexar au Texas, en septembre 2013. On la voit en photo. Elle a été baptisée Bibliothèque ou encore Bexar Bibliothèque et elle s'étend sur un site de près de 5000 m². Sur place, l'usager ne trouve aucun livre papier, mais a accès à une collection de 35 000 livres, 7 000 bandes dessinées et 400 livres audio au format exclusivement numérique. Avec l'avènement de la Bexar, une étape supplémentaire a été franchie dans l'histoire des bibliothèques de lecture publique. En proposant des collections entièrement numériques au sein d'un local qui reste physique, la Bexar remet en question la conception traditionnelle des bibliothèques françaises, profondément associée à la notion de collection physique. Alors, j'ai entendu parler de la Bexar Bibliothèque pour la première fois au tout début de ma formation à l'ENSIB. J'ai été frappée de voir que finalement, peu de professionnels des bibliothèques en avaient entendu parler ou pouvaient en décrire les principales composantes. S'agissait-il d'une méconnaissance, d'un tabou, d'une indifférence ? À l'heure actuelle, aucune bibliothèque de lecture publique sans livre imprimé n'a encore vu le jour en France. Il n'existe pas de définition académique et bibliothéconomique pour désigner une telle bibliothèque appelée « bookless library » en anglais. Alors, lorsque j'ai demandé à différentes bibliothécaires s'ils croyaient en la possibilité de la mise en place d'une telle bibliothèque sur le sol français dans un futur proche, les réponses ont été sans appel. À horizon 5 à 10 ans, je ne pense pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour dans mon réseau. Nous avons d'autres priorités. Je n'y crois pas une seule seconde. Nos usagers restent attachés aux collections physiques. Ou encore, cela arrivera un jour, mais impossible de vous dire quand. L'objectif de mon mémoire d'études, sous la direction de Dominique Lahari, était d'analyser si les bibliothèques sans livres imprimés comme celle de la Bexar pouvaient constituer une voie pour l'avenir des bibliothèques de lecture publique française. Autrement dit, tenter de savoir si on allait voir émerger ce type de bibliothèque dans les 10 à 15 prochaines années en France. Alors, j'ai structuré ma présentation autour de trois axes. Le premier axe consiste en une étude des origines, des caractéristiques et des vocations des bibliothèques sans livres imprimés. Mon deuxième axe vise à vérifier s'il y a encore des livres imprimés au sein des bibliothèques françaises. Et enfin, mon troisième axe permet d'envisager des scénarios vers lesquels les bibliothèques de lecture publique françaises pourraient tendre à l'avenir. Mon étude s'est appuyée sur la réalisation de 26 entretiens auprès de professionnels des bibliothèques. Alors, je tiens à préciser que je vais tenter d'en faire un état des lieux le plus objectif et factuel possible et je vous prie de voir dans les résultats que je vais avancer ni jugement de valeur, ni recommandation à suivre absolument en matière de politique documentaire. Quelles sont les origines et les caractéristiques principales de ces bibliothèques d'un nouveau genre et en quoi peuvent-elles constituer un modèle pour les bibliothèques de lecture publique françaises ? Alors, les bibliothèques universitaires sont précurseurs dans ce domaine. Le mouvement il a été lancé par la Bibliothèque des sciences de l'ingénieur de Stanford, qui a diminué drastiquement en 2010 le volume de ses collections imprimées. La même année, c'est la Bibliothèque de technologie et d'ingénierie appliquée de l'Université de Texas San Antonio qui est devenue officiellement la première bibliothèque universitaire du monde sans livres imprimés. On voit une photo aussi sur l'écran. On suivit en 2012 une bibliothèque de médecine de l'Université Johns Hopkins et enfin, plus récemment, la bibliothèque de l'Université Polytechnique de Floride. Donc, ce sont des bibliothèques américaines. Également, la Bibliothèque nationale de la Corée du Sud, qui a créé en 2009 une succursale avec des collections entièrement numériques qu'elle a appelées la Library. Cette mode du 100 livres imprimés s'est progressivement étendue aux bibliothèques de lecture publique. Alors, comme je l'ai dit, la Bexar Bibliothèque a vu le jour en 2013. Il ne s'agit pourtant pas de la première fois qu'une bibliothèque de lecture publique américaine tente de se lancer dans un tel projet. En 2002 et 2011, les villes de Tucson-Pilma et de New York Beach ont chacune ouvert une succursale en proposant des livres uniquement au format numérique, mais elles avaient très vite dû faire marche arrière face aux réactions négatives auprès des lecteurs qui avaient réclamé le retour des livres papier. Fin septembre 2014, la bibliothèque de la Cité à Genève, en Suisse, a fermé pour rénovation et en a profité pour créer un laboratoire expérimental entièrement numérique qu'elle a baptisé le Labo Cité. Et face au succès croissant rencontré auprès de ses habitants, la Bexar Bibliothèque, donc au Texas, a ouvert une deuxième antenne en juillet 2015 qu'elle a baptisée la Dr Ricardo Romo Bibliothèque, qu'on voit, c'est la Bibliothèque Orange. Et le projet d'ouverture d'un troisième site est actuellement en cours d'élaboration. Alors, derrière la réalisation de la bibliothèque se cache la réflexion d'un théoricien solitaire, le juge du comté de Bexar, qu'on voit en photo ici, Nelson Wolf. Alors, face au succès médiatique qu'a rencontré sa bibliothèque, il a écrit un livre dans lequel il présente ses sources d'inspiration, sa démarche, le déroulement du projet, en 2015. Donc, évidemment, il l'a publié en e-book, hein, et c'est disponible sur Amazon. Et alors, le livre, il s'appelle Bexar Bibliothèque, The Evolution of the Country's First All Digital Public Library. Alors, Nelson Wolf, c'est un homme politique et un ancien entrepreneur. Il est important de préciser que lorsqu'il a mis en place l'équipe projet pour construire la Bexar Bibliothèque, il n'a pas souhaité s'entourer de bibliothécaires. Et il écrit, je cite, qu'il voulait des idées fraîches, non grévées par des anciennes façons de faire. Voilà. Il a tout dit. Voilà. Donc, il est important de comprendre que la Bexar a été implantée dans un endroit où il n'y avait jamais eu la moindre bibliothèque auparavant, pas même de librairie. Donc, ce qui a pu faciliter la création et l'acceptation d'un projet aussi révolutionnaire. Donc, dans son livre, il avoue avoir été influencé par la figure de Steve Jobs, donc l'ancien PDG d'Apple. Et comme lui, il a eu envie, je cite, de transporter les gens dans des endroits où ils ne savaient même pas qu'ils voulaient aller et de créer une réalité qui n'existait pas auparavant. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Nelson Wolf est un grand amateur de livres anciens. Il a pourtant décidé de ne proposer que des livres numériques dans sa bibliothèque à ses futurs utilisateurs parce qu'il était convaincu que l'avenir de l'édition était avant tout numérique. Le budget de la Bexar, elle a représenté le tiers du budget moyen de construction d'une bibliothèque traditionnelle aux États-Unis. La Bexar Bibliothèque, elle a été construite dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville de San Antonio, avec la volonté de cibler un public traditionnellement exclu des bibliothèques, en les accueillant dans un local physique tout en leur proposant un accès à distance. La responsable m'a écrit « Notre bibliothèque est idéale pour les citoyens qui peuvent difficilement sortir de chez eux, les personnes handicapées ou malvoyantes, les militaires qui sont en permission ou déployés, très américain, ainsi que les personnes en prison. Nous essayons de combler certaines lacunes de notre société en fournissant un accès à des outils éducatifs et à des loisirs traditionnels tout en enseignant les bases de l'informatique et du numérique. » Alors que près d'un habitant sur trois du comté de Bexar ne dispose pas de connexion Internet chez eux, les usagers peuvent accéder donc sur place, gratuitement, à de nombreux services numériques. Et sachant que près de 63% de la population du comté est d'origine hispanique, les usagers y peuvent accéder à une large offre documentaire en langue espagnole. La bibliothèque, elle peut prêter jusqu'à 600 liseuses électroniques, 200 liseuses adaptées aux enfants, 40 tablettes et 10 ordinateurs portables. Donc c'est quand même énorme. Tandis que les bibliothécaires ont coutume de gérer des documents physiques, l'introduction de collections exclusivement numériques provoque une véritable mutation de l'espace public documentaire. Dans le cas des bibliothèques sans livres imprimés, on observe une véritable complémentarité, ça c'est paradoxal, mais on observe ça, une complémentarité entre espace physique et espace virtuel. L'accueil physique des usagers dans un lieu dédié reste fondamental. Et par exemple, alors que près de donc toutes les collections de la Bexar sont accessibles à distance, la bibliothèque reçoit quand même chaque jour entre 300 et 350 usagers. Le soir, elle est complète, à la sortie des classes. L'équipe de la Bexar est composée d'une trentaine d'agents, tous convaincus de l'intérêt de ce type de bibliothèque. Le métier de bibliothécaire, il évolue profondément dans le cas d'une bibliothèque sans livres imprimés, puisque comme ils ne sont plus accaparés par le catalogage ou le rangement des livres, ils ont plus de temps pour à dédier aux conseils, aux usagers, répondre à leurs questions et à leurs attentes. Les bibliothèques sans livres imprimés disposent de possibilités informationnelles étendues par rapport à la bibliothèque traditionnelle. Elles peuvent proposer des contenus toujours plus variés et attractifs. Pour les bibliothécaires, pas besoin de désherber. L'intégralité de l'information peut être conservée tout en étant préservée des dégradations matérielles éventuelles. La politique documentaire est aussi complètement revisitée dans ces bibliothèques et on passe d'une logique de contenu possédé à une logique de contenu accessible, pour citer Bertrand Callange. La médiation documentaire numérique représente une partie intégrante du projet des bibliothèques sans livres imprimés. Alors, pour citer Robert Darnton, on ne peut pas se contenter de concevoir l'accès technique à l'héritage culturel pour tout le monde. Il faut des intermédiaires et des guides, sinon les laissés-pour-compte de l'enseignement classique seront aussi les laissés-pour-compte de l'accès au savoir numérique. La bibliothèque souhaite rendre son public autonome et indépendant en matière numérique pour que ce dernier devienne un acteur à part entière de la bibliothèque et de ses collections. Donc pour cela, elle organise des formations, donc des tutoriels informatiques, des cours de code à destination des collégiens et des lycéens et de nombreux ateliers pour apprendre à télécharger des livres numériques ou à utiliser une tablette. Et le site internet de la bibliothèque, il a été conçu de manière à être le plus intuitif possible pour les usagers. L'étude de l'évolution du discours et des données en matière de volumétrie documentaire permet-elle d'anticiper la mise en place de bibliothèques sans livres imprimés en France ? Plus simplement, y a-t-il encore des livres imprimés dans les bibliothèques municipales françaises ? Pour reprendre le titre d'une émission récente sur France Inter. L'approfondissement du libre accès semble s'être accompagné ces dernières années par une forte volonté de la part des bibliothécaires de proposer des collections de plus en plus aérées. Il s'agit d'éviter qu'une bibliothèque ressemble à un véritable labyrinthe, à l'image de l'édifice, l'œuvre d'art réalisée par deux artistes brésiliens dans le cadre d'un festival à Londres en 2012. Ce nouveau discours dominant constitue un véritable changement de paradigme en privilégiant une pensée de la collection physique selon une logique d'attractivité et non plus selon une logique cumulative et encyclopédique. Des normes volumétriques ont été développées par le service du livre et de la lecture pour aider les professionnels dans le cadre de programmation ou de conception de nouvelles bibliothèques municipales. Les recommandations les plus répandues sont celles que l'on trouve dans trois ouvrages publiés par le Moniteur en 84, 96 et 2012, donc « La bibliothèque dans la ville »,« Bibliothèque dans la cité » et « Concevoir et construire une bibliothèque ». Il s'avère intéressant d'étudier les évolutions de ces recommandations sur la période 1984-2011 pour confirmer ou au contraire infirmer cette tendance qui consisterait à favoriser des collections plus aérées. Alors, vous pouvez voir qu'on observe une diminution de près de 14% du nombre de livres imprimés recommandés en libre accès, donc qui passe de 35 à 30 unités à 30 unités par mètre linéaire. Et par comparaison, le nombre de titres de périodiques imprimés recommandés sur la même période reste stable, proche de 4 titres par année par mètre linéaire. Il est essentiel de confronter ce discours à la pratique des bibliothèques de lecture publique française. Alors pour cela, je me suis penchée sur les données d'activité en matière de volumétrie documentaire qui sont recueillies chaque année par l'Observatoire de la lecture publique auprès des bibliothèques municipales françaises. J'ai essayé de calculer le nombre moyen de livres imprimés par mètre carré qu'on pouvait trouver au sein des bibliothèques municipales françaises. Il s'agit évidemment d'une œuvre de l'esprit qui est loin de représenter la réalité du terrain puisque l'ensemble des mètres carrés d'une bibliothèque ne sont pas tous consacrés au rangement et à la présentation des collections. Mais ce calcul, il a pour mérite de permettre des comparaisons entre différentes bibliothèques. Le ministère disposait des données pour effectuer un tel calcul, mais il ne les a jamais vraiment exploitées dans ses publications. Les résultats que je vais vous présenter s'appuient sur un échantillon que j'ai retenu de 760 établissements sur la période 2009-2013. Cet échantillon, il représente quand même 22% des bibliothèques municipales françaises. Prises dans leur ensemble, ces bibliothèques sont suffisamment représentatives de la réalité à l'échelle nationale, puisqu'elles sont issues de quasiment l'ensemble des départements français, et elles sont de taille très diverse, comme on peut le voir sur ces graphes. Alors, l'analyse de ces statistiques montre que les bibliothèques municipales françaises présentent en moyenne 30,4 livres imprimés par mètre carré. Donc c'est une étude sur 760 bibliothèques, c'est quand même plutôt réaliste. Et ce chiffre est relativement stable sur la période 2009-2013. Si la moyenne nationale s'établit autour de 30 livres imprimés par mètre carré, on observe cependant une grande diversité de densité au sein de l'échantillon. 30% des bibliothèques présentent une densité inférieure à 30 livres imprimés par mètre carré, 50% ont une densité entre 30 et 60 livres par mètre carré, et 20% ont une densité supérieure à 60 livres imprimés par mètre carré. Et comme le montre ce graphe, on observe une forte corrélation entre la surface des bibliothèques et leur densité. Donc plus une bibliothèque est petite, plus sa densité a tendance à être élevée. Inversement, plus une bibliothèque est grande, plus sa densité en livres imprimés tend à être faible. Si la baisse de la densité en livres imprimés ne concerne pas la majorité des bibliothèques, comme je vous l'ai dit, elle semble relativement importante pour celles qui se sont agrandies. Autre observation. J'ai pu montrer qu'on pouvait voir une baisse considérable de la densité en livres imprimés sur l'échantillon en cas d'agrandissement des bibliothèques sur la période 2009-2013. Donc, par exemple, la densité des bibliothèques dont la surface a augmenté de plus de 25% sur cette période est passé de 67 à 39 livres imprimés, donc a baissé de 42%. Et la densité des bibliothèques dont la surface a augmenté de plus de 150% est quant à elle passée de 78 à 23 livres imprimés par mètre carré, donc elle a baissé de 70%. Donc, si la baisse de la densité en livres imprimés ne concerne pas la majorité des bibliothèques, elle semble relativement importante pour les bibliothèques qui se sont agrandies sur la période 2009-2013. Et ce, même si on observe au global une relative stabilité du volume des livres imprimés. Alors, il est possible de tenter d'expliquer cette baisse en envisageant différents facteurs. Soit il s'agit d'une baisse subie, donc les bibliothécaires ont du mal à disposer des budgets, du temps ou de la main-d'œuvre nécessaire pour augmenter sensiblement le volume de leur offre documentaire dans les suites immédiates d'un agrandissement. Soit il s'agit d'une baisse vraiment choisie par les bibliothécaires qui voudraient jouer sur l'effet d'augmentation de la surface pour donner une impression de collection plus aérée. Ou alors ils peuvent utiliser l'augmentation de la surface disponible pour privilégier les aménagements visant le confort des usagers au développement de l'offre documentaire, donc les canapés, les espaces de travail supplémentaires, des salles de réunion, des salles de conférence, où ils peuvent vouloir substituer progressivement les collections physiques par une offre numérique proche. Le gain de place réalisé pouvant alors être consacré au développement de nouveaux services dédiés à la consultation des ressources numériques, comme des ordinateurs. Portable, des ordinateurs. La collection physique reste-t-elle le cœur de la bibliothèque à l'heure où les bibliothécaires accordent une importance croissante au bien-être de leurs usagers et entreprennent d'inscrire leur offre documentaire dans un environnement numérique ? Afin d'anticiper la place que pourrait prendre le livre imprimé dans la bibliothèque de lecture publique du futur, j'ai tenté de dégager 4 scénarios. Celui de la bibliothèque traditionnelle, celui de la bibliothèque troisième lieu, celui de la bibliothèque hybride et enfin celui de la bibliothèque sans livre imprimé. Chaque option témoignant d'un rapport spécifique au livre imprimé, tantôt central comme au sein de la bibliothèque traditionnelle, tantôt inexistant comme pour les bibliothèques sans livre imprimé. Dans cette partie prospective, j'ai réalisé une étude de terrain de 3 bibliothèques municipales françaises. La bibliothèque Louise Michel du réseau parisien, donc exemple de bibliothèque troisième lieu. La médiathèque Gustave Eiffel de Levallois-Perret, comme exemple d'une bibliothèque hybride. Et enfin, l'atelier numérique de Versailles, comme embryon d'une bibliothèque sans livre imprimé. La bibliothèque Louise Michel constitue un bel exemple de bibliothèque troisième lieu. Au moment de sa création en 2011, son espace public documentaire a été conçu de manière à ce que les collections imprimées soient à taille humaine. Les étagères les plus hautes ont été repoussées le long des murs, de manière à éviter qu'en entrant, l'usager se trouve face à une forêt de livres. La bibliothécaire, elle présente finalement une densité de 29,9 livres imprimés par mètre carré. Alors, vous allez me dire que ce chiffre, il est relativement proche de la moyenne nationale. Comme je l'ai dit, la moyenne nationale est de 30 livres imprimés par mètre carré. Mais on est dans le réseau parisien. Et dans le réseau parisien, la densité en livres imprimés, elle est plutôt de 58 livres imprimés par mètre carré. Parce qu'il y a un manque de place terrible. Et du coup, ce chiffre paraît relativement bas rapporté à la moyenne du réseau parisien. Alors, même si le livre imprimé reste au cœur de l'offre de la bibliothèque troisième lieu, je tiens à le préciser, on peut observer une baisse presque mécanique de la volumétrie dans ces bibliothèques qui peut s'expliquer par la volonté de rompre avec la présentation d'une collection trop abondante pouvant être source d'anxiété pour le public traditionnellement éloigné des bibliothèques. Cette baisse rend aussi possible de nouveaux aménagements, comme des espaces favorisant la détente des lecteurs avec du mobilier cocooning, ou encore la multiplication des salles d'animation. Et ces aménagements, finalement, ce sont des aménagements essentiels pour assurer l'émission sociale d'une bibliothèque troisième lieu. La médiathèque Gustave Eiffel de la ville de Levallois-Perret a ouvert au même moment que la bibliothèque Louise Michel. C'est une belle illustration de ce que peut être une bibliothèque hybride en proposant un accès à une large offre de ressources numériques et physiques. Elle présente une densité de 18 livres imprimés par mètre carré, soit près de la moitié de la densité moyenne nationale. Ah, pardon. Ah bah oui, il fallait me le dire. Pardon. Oui, j'avais pas vu. Okay. Au sein d'une bibliothèque hybride, le bibliothécaire ne réfléchit plus en termes d'emplacement, de format ou de support, mais en termes de contenu. À surface inchangée, il faut alors dégager de la place pour proposer des postes informatiques ou des places de travail dédiées à la consultation des ressources numériques, ce qui implique là encore une nouvelle conception de l'espace public documentaire. Forme intermédiaire entre la bibliothèque traditionnelle et la bibliothèque intégralement numérique, la bibliothèque hybride reste un bon compromis pour satisfaire à la fois les adeptes du tout numérique et du tout papier. Et tout comme le scénario de la bibliothèque troisième lieu, mais avec des missions différentes, la bibliothèque hybride constitue un scénario très crédible. Passons maintenant à l'étude du scénario de la bibliothèque sans livre, imprimé. L'atelier numérique de Versailles a ouvert ses portes en 2012 sous l'impulsion du maire de Versailles. À la fois conçu comme un lieu de vie et un centre de ressources numériques, l'atelier numérique semble être la bibliothèque française qui se rapproche le plus d'une bibliothèque de lecture publique sans livre imprimé, et elle présente finalement de nombreuses similitudes avec la Bexar Bibliothèque. L'atelier numérique présente un fonds de 185 ouvrages imprimés consacrés exclusivement à au domaine du numérique. Donc, si l'on rapporte ce nombre de livres imprimés aux 600 m² de surface de la bibliothèque, on obtient une densité de 0,3 livres imprimés par mètre carré. En cela, il s'agit de la bibliothèque de lecture publique du territoire avec la plus faible densité en livres imprimés. L'appellation d'atelier numérique a été préférée à celle de bibliothèque pour mieux refléter la polyvalence du lieu. L'établissement dispose du statut d'établissement public numérique. Alors, pour rappel, les établissements publics numériques, c'est une sorte de cybercafé public. Enfin, ce sont des sortes de cybercafés publics qui ont été mis en place dans les années 90 pour permettre le développement numérique des territoires. Il y en a 4700 en France. Et donc, pour la responsable de l'établissement, les usagers ont parfois du mal à identifier l'atelier numérique comme une bibliothèque et ils semblent reconnaître davantage son statut d'établissement public numérique. Le faible nombre de livres imprimés semble renforcer les difficultés pour le public d'identifier ce lieu comme une bibliothèque. L'atelier numérique est l'un des rares exemples en France de bibliothèque qui se rapprocherait d'une bibliothèque sans livres imprimés, bon, tout en gardant quand même une petite densité de livres imprimés. On voit bien pourtant que cet établissement doit faire face, depuis son ouverture, à des difficultés de positionnement qui mettent en évidence le fait que les bibliothèques de lecture publique française ne semblent pas tout à fait prêtes à entrer dans l'ère du sans livres imprimés. Au cours de mes recherches, j'ai pu mettre en évidence un certain nombre de freins qui me font dire que le scénario de la bibliothèque sans livres imprimés reste encore très largement inconcevable en France. Alors évidemment, avec les échanges que j'ai pu avoir par email avec la responsable de la BEXAR aux États-Unis ou à la lecture de l'essai de son fondateur, je n'ai eu que des louanges et des retours positifs. Une réaction typiquement américaine et une réaction aussi de quelqu'un, de personnes qui veulent défendre absolument leur projet. Sachant que je n'ai pas pu me rendre sur place pour vérifier de mes propres yeux, j'ai essayé de contrebalancer cette vision idéalisée en échangeant avec l'ancien responsable du labo Cité de Genève, Florian Dufaux. Donc, sans aller jusqu'à faire de du bibliothécaire une figure du rebelle du papier ou encore un syndicaliste de l'Infolio, comme celle défendue par Virgile Stark dans son ouvrage « Le crépuscule des bibliothèques », c'est vrai qu'il est ressorti de mes différents entretiens qu'il persistait une forme d'attachement des bibliothécaires français aux livres papier. Paradoxalement, lors de la mise en place du Labo Cité, ce ne sont pas les bibliothécaires qui se sont montrés les plus réfractaires au projet, mais bien les lecteurs qui en ont moins saisi les enjeux. Florian Dufaux m'a dit qu'une phrase qu'il entendait souvent au Labo Cité, c'était, quand les gens rentraient, « Une bibliothèque sans livres ? Ah non, moi je reviendrai quand la vraie bibliothèque sera réouverte. » Donc, l'adhésion des élus au projet est cruciale pour la réussite d'un tel projet. Pourtant, pour beaucoup d'élus, le livre papier reste aujourd'hui le meilleur support pour assurer une pérennité, une propriété, une visibilité des collections. Les élus craignent que le recours généralisé à des plateformes publiques contribue à homogénéiser l'offre documentaire entre les bibliothèques municipales françaises, ce qui va à l'encontre des principes d'adaptation et de singularisation du service de lecture publique. Le modèle de la bibliothèque sans livre imprimé ne semble pas tout à fait pertinent, car encore trop prématuré au regard des freins techniques, juridiques et financiers qui persistent. L'insuffisance de l'offre numérique en langue française constitue un des freins majeurs. Il y a également la complexité de l'accès et des droits des ressources numériques, donc les problèmes d'interopérabilité, d'authentification des utilisateurs, la conception des interfaces, la préservation des données, la maintenance au quotidien des liseuses et des tablettes. Un autre problème, c'est les coûts élevés de l'offre documentaire numérique. Une étude réalisée en février 2015 par l'association Réseau Carrel à propos du prêt numérique en bibliothèque montre qu'une bibliothèque, quand elle achète un livre numérique, elle le paie jusqu'à 3,89 fois plus cher qu'un exemplaire papier du même titre. Et enfin, comme le souligne Christopher Platt, qui est directeur des collections à la New York Public Library, à propos des bibliothèques sans livres imprimés. Nous en sommes encore au balbutiement. Il nous a fallu près de 100 ans pour arriver à obtenir quelque chose de correct du papier. Alors il nous faudra encore un certain temps avant de maîtriser le numérique. Les bibliothécaires français ont donc besoin d'avoir plus de recul sur les quelques expériences qui ont déjà été menées dans le monde sur ce sujet. Donc pour conclure, avec Dominique Lahari et aussi Bertrand Calange, nous avions l'intuition que la densité en livres imprimés était en train de baisser massivement ces dernières années en France, encouragée par un discours dominant, donnant la priorité aux collections aérées et prônant la fin de l'encyclopédisme en bibliothèque municipale. Mais finalement, mes recherches ont montré qu'au global, il y avait toujours autant de livres imprimés au sein des bibliothèques françaises, avec une densité moyenne de 30 livres imprimés par mètre carré, et que ce chiffre, il est relativement stable ces dernières années. J'ai toutefois pu observer que dans la majorité des projets de restructuration qui ont été menés ces dernières années, les bibliothèques se sont agrandies et ont vu leur densité en livres imprimés diminuer, parfois drastiquement. Au sein de ces nouvelles bibliothèques, on n'observe pas un choix délibéré de baisser le nombre des collections physiques, mais bien plutôt une baisse mécanique de la volumétrie qui s'explique par l'apparition de nouvelles missions, parfois gourmandes en termes d'espace, donc la multiplication des espaces détente, des salles de travail en groupe, l'augmentation du nombre de postes informatiques. Finalement, en constituant de bons compromis entre la bibliothèque sans livres imprimés et la bibliothèque traditionnelle en matière de densité, l'émergence des bibliothèques hybrides et des bibliothèques troisième lieu participe à rendre le scénario de la bibliothèque sans livres imprimés d'autant plus improbable. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Laura. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, plein de remarques. Je suis trompé.
Bonjour. On sait d'expérience que mètre linéaire et mètre carré, ce n'est pas tout à fait pareil. Je comprends bien pourquoi vous avez choisi les mètres carrés. C'est tout simplement parce que vous n'aviez pas les mètres linéaires à portée de main dans les statistiques, j'imagine. Est-ce que vous avez une idée de si ça fait vraiment une différence ou pas sur les résultats ?
Alors, en fait, je n'ai pas montré toutes mes données. Et j'ai bien les données en mètre carré sur les deux derniers ouvrages, en fait, sur la période 84-96. Et là aussi, il y a une baisse donc par mètre carré. Mais si je voulais vraiment toucher toute cette période et pour simplifier ma présentation, en tout cas ce soir, je me suis contentée uniquement sur ces chiffres. Mais dans mon mémoire, en fait, il y a une partie, je montre un graphe qui montre aussi qu'il y a une baisse de la densité entre 84 et 96 par mètre carré, en tout cas du point de vue des recommandations. Mais je n'ai pas montré aujourd'hui cette slide parce que je ne voulais pas assommer les gens avec trop de chiffres.
Oui, est-ce que vous pourriez préciser la nature de l'offre numérique de l'atelier numérique de Versailles ?
Alors, c'est déjà l'offre numérique, je crois. Je ne suis pas non plus une spécialiste, hein, mais c'est l'offre numérique qu'on trouve déjà dans tout le réseau de Versailles, qui est proposée sur leur portail. Et donc, c'est finalement Isneo, enfin plein de ressources numériques. Par contre, ils n'ont pas énormément de livres numériques. Ils proposent pas un nombre incroyable d'accès de livres numériques, contrairement à la ville de Levallois-Perret qui, elle, a vraiment une énorme offre de livres numériques. Donc c'est vraiment des ressources numériques de tout domaine, mais pas uniquement des livres numériques, mais voilà, quelques plateformes de ressources classiques, Isneo, des plateformes d'auto-formation, voilà. Plutôt des ressources dédié à l'auto-formation et aux pratiques du numérique que vraiment des livres numériques. Mais il y a un peu le livre numérique.
Et donc, à la Bexar, comment se fait l'accès au document numérique, c'est-à-dire comment ça se présente, quoi, enfin, quelles sont les interfaces. Est-ce que c'est, d'abord, est-ce que c'est encyclopédique? Et puis voilà, comment on fait pour se repérer?
Alors, pour la première partie de la question, en fait, là, on voit la plateforme, le portail. C'est une recherche fédérée assez simple. Je pense que l'utilisateur rentre. Par contre, c'est vraiment un utilisateur est identifié et c'est un habitant de la Bexar Bibliothèque. N'importe qui ne peut pas s'y connecter. Il faut d'abord être passé sur place pour s'inscrire. Donc après, il s'identifie et il a accès à ce portail. Et là, il a accès à plein de ressources. Après, est-ce que c'est encyclopédique encyclopédique du point de vue numérique? Enfin, c'est une bibliothèque de lecture publique, donc déjà, ils ne vont pas avoir des bases de données de bibliothèque universitaire. Mais par contre, quand même, je dirais que pour les États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ont énormément de ressources numériques. Enfin, ils ont des tonnes de plateaux. Ils ont souscrit à plein d'abonnements, mais qui restent dans le domaine de la lecture publique. Donc peut-être, je crois, une trentaine de ressources numériques. Mais ce n'est pas encyclopédique. Parce que tout ce qui n'existe pas en format papier, eux, ils ne vont pas l'avoir, tout simplement. C'est-à-dire, dans la rentrée littéraire, si certains livres ne sont pas publiés au format numérique, ils ne peuvent pas les proposer à leurs utilisateurs. Mais c'est assumé, ils le savent, mais voilà, c'est assumé en tout cas. Donc ce n'est pas encyclopédique. Oui. Non plus. Alors, il y a un aspect philanthropique, c'est une bonne question, parce qu'en fait, aux États-Unis, les bibliothèques font appel à des partenaires. Donc là, elle a été subventionnée par énormément de... Il y a eu beaucoup de donations, ils ont fait appel à des dons, et elle a été subventionnée par énormément d'entreprises du Texas numérique. Et après, est-ce que... Par contre, pour les usagers, c'est public et c'est gratuit. Voilà, c'est complètement gratuit. Ouais, non. Enfin, si ça m'aurait plu, mais on était restreint à la partie.
Ça c'est payant pour l'ENSIB.
Bon, voilà. Ouais.
Sur l'atelier numérique de Versailles, quel est son public? Comment c'est vécu, je dirais, par les usagers? Comment c'est vécu par les bibliothécaires et en quoi ça se distingue d'un EPN normal? Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui a été fabriqué par défaut, parce que dans la bibliothèque de Versailles elle-même, il y avait insuffisamment d'espace pour installer le numérique, installer des postes Internet, etc. On a un peu l'impression que c'est un peu par défaut que ça s'est créé.
Moi, j'ai cru comprendre que Sophie Danis, donc la directrice du réseau des bibliothèques de Versailles, m'a dit que c'est le maire un jour qui lui a... Donc, ils avaient ce local et il était petit, en effet. Et lui, il avait vraiment envie de faire une bibliothèque numérique. Mais bon, voilà, il voulait faire une bibliothèque numérique. Et elle s'est penchée sur la question. Et puis, ils ont évolué vers l'idée d'un atelier numérique. Donc, pas une vraie bibliothèque, pas une bibliothèque de lecture publique classique, mais une bibliothèque centrée sur des ressources numériques. Mais aussi sur le numérique comme pratique ou comme culture. Enfin, pas si je suis claire en disant ça. Et les usagers, je crois que ça a été vraiment très compliqué. Le problème de positionnement de cette bibliothèque atelier numérique a été très complexe. Ils n'ont pas du tout le même profil d'usagers qui vient. Ce sont pas les mêmes usagers qui viennent dans cette bibliothèque qui vont dans les autres bibliothèques. Ils ont des usagers qui viennent pour apprendre à utiliser Internet. Et alors là, vraiment, c'est identifié comme un lieu où on apprend à utiliser Internet, on développe des compétences numériques. Ils ont énormément de jeunes. Et donc, ouais, voilà, pour cet aspect. Après, est-ce que, enfin, vous pouvez peut-être répéter quel autre aspect de la question vous avez?
Numérique à l'atelier, etc.
Non, c'était vraiment... En tout cas, il y a toutes les autres bibliothèques du réseau proposent des livres, des collections physiques. Et justement, je crois qu'elles ont très peu de postes informatiques, les autres bibliothèques. Et du coup, ils se sont dit que pour les usagers, s'ils identifiaient vraiment un lieu numérique avec des ordinateurs à cet endroit-là, c'était plus simple. Oui, aussi parce qu'ils avaient probablement un problème de place dans le sens où les bibliothèques étaient déjà très chargées. Et que s'ils voulaient développer plus de proposer un lieu avec beaucoup d'ordinateurs, il fallait qu'ils soient identifiés. Et du coup, ils ne pouvaient pas tout faire tout, puisqu'ils avaient 600 mètres carrés. Donc là, vraiment, ils ont décidé de mettre 160 livres imprimés, et qu'on voit sur ces petites étagères-là, sur les côtés. Donc c'est vraiment très peu. On rentre dans cette bibliothèque et on voit ces trois étagères et c'est tout. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas identifié par les usagers comme bibliothèque.
Pour l'avoir visité, l'atelier, c'est effectivement une volonté des tutelles de faire en sorte que le numérique soit concentré dans un endroit spécifique. Après, c'est une série de décisions aussi un peu... Il y avait un endroit disponible, c'est une maison cœur de ville qui n'a pas beaucoup de visibilité. Là, on ne voit pas trop sur les questions, mais c'est une réhabilitation. En fait, à l'extérieur, c'est vraiment de l'ancien. À l'intérieur, c'est un atelier numérique type véritablement EPN, plutôt que de choisir la solution qui était, je pense, préférée par les bibliothécaires, qui consistait à déployer le numérique dans les bibliothèques.
Ah oui, et pour l'aspect, donc, qu'en pensent les bibliothécaires de Versailles ? Ça a été l'occasion de... Donc, il y a des bibliothécaires qui restent tout le temps dans cette bibliothèque, une ou deux personnes. Par contre, les autres bibliothécaires du réseau tournent et doivent passer de temps en temps, tous les 15 jours ou tous les mois, une après-midi dans ce lieu comme bibliothécaire. Ils font du service public, un nouveau service public, évidemment. Et c'est une volonté de la part, je pense, de Versailles, de sensibiliser doucement sur les bibliothécaires à ces questions. Et au début, apparemment, les gens avaient un peu peur, ils étaient réticents, enfin, bon, pas tous, mais et finalement, ça rentre dans les mœurs et ils aiment bien aller de temps en temps dans ce lieu pour faire du service public en renfort, notamment les samedis, je crois. Voilà. Ouais.
Oui, et ce qu'on peut dire, c'est que par certains côtés, la fréquentation ressemble un peu à ce qu'on peut trouver au centre de doc de la Gaîté Lyrique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des usagers retraités qui sont des fidèles des ateliers numériques et notamment de toutes les sessions de formation à Internet, construire sa boîte mail et ainsi de suite. Il y a pas mal de collégiens qui viennent après la sortie des cours, parce qu'il y a aussi accès à des postes informatiques, voire aux jeux. Et puis il y a une population qui s'est sédentarisée aussi, qui vient très régulièrement, parce que voilà, on a un espace qui est quand même assez agréable et très bien aménagé. Ouais. Après, c'est micro en termes de fréquentation. Enfin, c'est méchant de ma part de le présenter comme ça, mais on n'est pas sur... c'est une maison cœur de ville.
Et puis si des usagers veulent accéder à des collections papier, les bibliothécaires disent, bon, bah, allez dans telle bibliothèque proche, à 1 km, vous trouverez des collections imprimées. Quoi. C'est intégré dans le réseau.
Moi, je suis assez impressionnée par la fréquentation de la Bexar, toujours, hein, parce que je trouve que c'est difficile de se repérer dans des collections purement numériques. En plus, on sait que c'est un quartier avec des gens en situation de précarité. Donc, comme je me demandais, en France, on sait quand on laisse en... Quand on donne accès à des ressources numériques, quand on met en libre accès des ordinateurs qui donnent accès à Internet, alors on espère que ça va flécher, que les gens vont utiliser certaines ressources en général, et puis de fait, ils vont naviguer librement, consulter leur messagerie et tout. Je me demandais si on avait une idée de la pratique précise, quoi, de ce que font tous ces gens qui viennent à la Bexar, qui utilisent ces ordinateurs. Est-ce que, comme vous nous avez précisé, que souvent ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux, est-ce que ça n'est pas principalement pour... quelle est la part de l'utilisation libre d'Internet, de la messagerie ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? Enfin, je trouve ça très bien qu'ils utilisent la bibliothèque pour ça. Mais disons que je m'interroge par rapport à la collection, à la notion de collection. Et donc voilà, je me demande dans quelle mesure ils utilisent la collection numérique. Voilà.
Alors quand j'ai envoyé des emails à la responsable de la Bexar, je lui ai demandé si elle avait fait des enquêtes de public, des enquêtes d'usage, et elle m'a dit qu'ils n'en avaient pas. Mais elle m'a garanti que voilà, c'était très utilisé. Voilà. Donc après, j'ai aucune idée. Je ne peux pas vous répondre. Ils n'ont pas fait d'études de log. Et c'est vrai que c'est des questions très intéressantes à se poser. C'est sûr que ce serait très intéressant de voir si les gens zonent sur YouTube ou si vraiment ils regardent si vraiment ils utilisent à 100% les ressources mises à disposition.
À 100% ou à 10%.
Ou même, voilà, je ne sais pas. Du coup, je ne peux pas vraiment vous dire.
Même si l'analyse de log, il n'y a rien de plus difficile. C'est facile à penser, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. On est bien placé pour le savoir. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, Jean-Claude.
En fait, c'est une remarque qui reprend votre scénario de bibliothèque hybride. Non seulement c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit une bibliothèque, on construit des volumétries qui sont a priori limitées, qui sont moindres que dans le temps. C'est le cas pour le réseau de la ville de Paris. On est parti sur des volumétries qui aujourd'hui sont limitées. Quand on construit une bibliothèque, dans le projet architectural et technique, on donne une volumétrie qui est très, très inférieure à ce qu'on trouvait dans le temps et qui, normalement, est limitée. Donc, au bout d'un certain temps, lorsqu'elle atteint sa volumétrie, un document entré égale un document sorti. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on peut constater aussi, c'est qu'à l'intérieur des bibliothèques, dans le temps, systématiquement, je dirais, tous les espaces avaient des contenus documentaires, avaient une offre de documents, sauf peut-être l'auditorium. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit une bibliothèque, il y a plusieurs espaces qui n'ont pas de documents. Par exemple, on va construire une salle de lecture silencieuse. Par exemple, on va construire une salle de travail en groupe. Par exemple, on va construire justement un atelier multimédia, etc. Donc, il y a toute une partie de la bibliothèque qui n'a plus de documents. Voilà, ça fait partie de ces bibliothèques hybrides. C'est pas seulement que ça, je dirais, limite la densité documentaire. C'est que ça veut dire qu'on introduit effectivement toute une série d'autres usages à l'intérieur de la bibliothèque. Et c'est le défi d'ailleurs architectural quand on construit une bibliothèque, parce qu'on construit un espace pour des gens qui ont toujours une recherche documentaire, un emprunt de livre, et puis on construit aussi des espaces pour des gens qui ne font que passer pour faire autre chose. Oui. Pour participer à une animation, pour regarder un post internet, pour avoir la Wi-Fi dont on parlait ce matin, pour travailler en groupe avec leurs propres documents, etc. Voilà. C'est le schéma, effectivement, de la bibliothèque hybride que vous développiez.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment... c'est pas un choix drastique de diminuer les livres imprimés, mais il y a de nouvelles missions, de nouveaux usages qui se sont imposés ces dernières années en bibliothèque. Et à budget contraint, on est obligé de faire des choix et on peut pas tout développer. Et à surface aussi, contrainte aussi. Voilà.
Et c'est vrai pour les grands établissements et c'est vrai pour les bibliothèques universitaires aussi. Écoutez, je crois qu'on va, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, et notamment merci pour vos interventions. Je pense qu'on a une formule qui est peut-être plus équilibrée. 6 interventions, pas plus, mais pas mal d'interventions de la salle. Merci beaucoup, Laura, vraiment. Merci à tous les intervenants, et donc à suivre l'an prochain.